proposé par YAM Le Club et Art District Radio. Elles font le marché.
Nous sommes à 2600 euros, une fois.
Une série de podcasts documentaires qui croisent témoignages, réflexions et expertises. Chaque mois, portrait de celles qui évoluent au sein du marché de l'art français pour l'évoquer sous le prisme de leur regard de femme. Quels sont leurs parcours et leurs vocations? Comment se font-elles un nom? Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise? Un podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
Il y a toujours eu quand même quelque chose d'assez mélangé entre les artistes et les marques. Rentrer dans un monde plus commercial, c'est aussi une manière de s'insérer en fait, à plusieurs couches et de parler à peut-être plus de monde qu'un monde un peu élitiste, artistique. Enfin, moi, je n'ai pas du tout envie de blâmer l'art qui s'immisce davantage. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Aujourd'hui, on a un accès à l'art qui est tellement plus simple que c'est aussi beaucoup plus facile de s'y associer quand on a une marque.
L'idée étant de démystifier aussi ce monde de l'art contemporain où on pense qu'acquérir une œuvre d'art, on ne le peut pas sans avoir un budget assez conséquent. Or, c'est faux. On peut très bien acheter un dessin pour quelques centaines d'euros et voire même aujourd'hui un NFT d'œuvre d'art à partir de quelques centimes d'euros. Je pense pas que le problème soit l'argent en tant que tel, c'est la façon dont on l'appréhende et puis surtout la peur aussi, l'appréhension de découvrir un monde qui malgré tout reste dans l'imaginaire un peu mystifié, réservé à des initiés. Et c'est quelque chose qui tend à changer, notamment par le fait qu'on voit de l'art partout, grâce aussi à des collaborations artistiques avec des marques, etc. Ça fait partie du jeu.
Elles font marché, épisode 18, l'art, une image de marque. Ce n'est certes pas nouveau, les marques ont toujours fait appel à la valeur ajoutée des artistes pour mettre en valeur leurs produits et leur image, les artistes profitant eux de ces collaborations pour valoriser leurs œuvres et les diffuser au plus grand nombre. Les marques ne s'en cachent pas, la créativité des artistes ajoute à leur profit, le consommateur étant prêt à payer plus et plus cher ce substrat artistique, d'autant plus quand l'artiste est connu. Si historiquement c'était plutôt les marques qui faisaient appel directement aux artistes, on voit aujourd'hui l'émergence d'agences de conseil spécialisées dans la recherche d'artistes et le montage de plans marketing afin de faire entrer l'art dans l'entreprise et même plus dans la société. On parle même d'art-cutting, tant l'art est entré aujourd'hui dans le domaine de l'image de marque, notamment dans le secteur du luxe. Mais l'art n'est plus seulement affaire de buzz pour un produit. Il se veut désormais véhicule de valeur pour l'entreprise évidemment, mais aussi pour le plus grand nombre, pour la collectivité, pour le grand public. Singulier, talentueux, créatif, le voici désormais vertueux, écologique, féministe, inclusif, attentif au savoir-faire. Alors, effet de buzz et effet de mode, ou vision sociétale, voire morale, sur le plus long terme, alliance éphémère ou mariage à impact vertueux, trois voix de femmes nous aident dans cet épisode à appréhender ce sujet complexe, en poussant la réflexion sur ces mariages de plus en plus recherchés de la part des marques, mais aussi des artistes. Clémentine Le Pironec, Bombay Senior Brand Manager chez Bombay Saphir, Caroline Dervaux, artiste, et Caroline Boudéenne, journaliste et art advisor, cofondatrice de l'agence C Contemporaine. Elles nous ont fait le plaisir de répondre à quelques-unes de nos questions et de nous éclairer sur ce sujet. Caroline Dervaux, artiste.
Oui, alors mon travail navigue entre plusieurs choses. Il y a le travail sur toile. Ensuite, il y a le travail qui va être donc dans la rue, dans l'espace public ou aussi dans l'espace privé. Alors la première fois que j'ai collaboré avec une marque, c'était avec Bombay Saphir, avec l'agence Collab Factory. C'était donc en mai 2019. En premier temps, j'ai customisé, il me semble, c'était 200 ou 300 bouteilles Bombay Saphir. Cette customisation de bouteilles avait vocation à être donnée durant une soirée où j'ai fait une performance de live art durant 4 jours en collaboration avec mon amie Amandine Le Say, avec qui je travaille au sein d'un collectif qui s'appelle Wall Street Colors. Peindre dans la rue, c'est plutôt agréable, mais c'est vrai que là, dans un espace confiné, c'était un gros challenge, donc ça m'a permis de me sortir un petit peu de ma zone de confort.
Et alors, sur la collaboration en elle-même, est-ce que c'est la marque qui est venue à toi ou est-ce que c'est toi qui as démarché la marque? Comment ça s'est fait?
Alors, moi, je démarche jamais. Généralement, c'est des marques qui me contactent directement ou souvent, le plus souvent, des agences. En fait, je collabore avec pas mal d'agences et c'est plutôt celles-ci qui vont me contacter pour une collaboration.
Donc, c'est des intermédiaires, en fait?
Voilà, ouais.
Et dans ce cas-là, t'étais satisfaite du contrat? Comment, est-ce que t'avais une liberté de création? Est-ce que la marque voulait vraiment du Caroline Dervaux ou bien elle voulait plus de la du Bombay Saphir et que Caroline Dervaux s'adapte comment est le ratio en fait?
Alors moi j'ai beaucoup de chance, je pense que c'est aussi le monde de l'abstrait où c'est un petit peu peut-être plus dur d'imposer des messages très très clairs et voilà très formatés. Pour le coup, moi, j'avais une carte blanche absolue puisque je correspondais aussi à l'univers assez graphique de la marque Bombay Saphir. C'est une collaboration d'ailleurs qui a continué en 2020 car ils m'ont commandé une œuvre que j'ai créée en fait dans leurs anciens locaux qui allait être dans leurs futurs locaux. Et là, c'était une commande qui était assez sympa parce qu'on était plusieurs artistes à créer dans le même lieu.
Clémentine Le Pironec, Bombay Senior Brand Manager chez Bombay Saphir.
Si Bombay a été créé il y a plus de 150 ans maintenant, cette bouteille bleue, elle joue un rôle hyper important quand elle arrive sur le marché français en 1987, puisqu'à l'époque, sur le marché du gin, on avait essentiellement des bouteilles vertes. Et à cette époque, c'était inconcevable d'avoir une bouteille bleue. Et du coup, à ce moment-là, Saphir fait sensation et c'est là que la marque marque un tournant dans son histoire et qu'elle se différencie de toutes les autres marques de jeans.
Et quand est venue l'idée de réaliser des collaborations artistiques avec des artistes actuels?
Bah finalement peu de temps après que la bouteille arrive, puisque donc la création c'est 1987 et à partir des années 90 la marque va commencer à créer un concours de design de verre pour réinventer le verre de demain en s'inspirant du coup de la bouteille. Et en fait, la récompense, c'est bah, d'une, pouvoir voir son verre devenir réalité. Et donc, il y a quelques milliers de designers partout dans le monde, qui soient connus ou pas du tout d'ailleurs, qui participent à ce concours qui aura lieu pendant 18 ans d'affilée. La récompense, donc, c'est bien sûr le verre qui arrive dans les bars. Mais c'est aussi une récompense financière pour pouvoir aussi accompagner, du coup, ces artistes dans leur carrière.
Est-ce que la marque réfléchit aussi à des actions d'accompagnement d'artistes ou de mécénat comme le font de plus en plus les marques haut de gamme et de luxe actuellement à travers notamment des fondations d'entreprises, des créations de prix, de bourses et même parfois de résidences d'artistes?
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un travail qui a été entrepris au début des années 2000 avec la création de la fondation Bombay Saphir en 2001, qui avait vraiment pour but de venir célébrer tout ce travail artistique autour de l'art contemporain, mais également de venir supporter des artistes, de les aider dans leur carrière. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas non seulement des designers comme ça avait pu l'être à l'époque. On a tout un panel de différents arts qui sont représentés du coup dans cette fondation. On a donc le bijoutier Swarovski à l'époque. On a donc Tom Dixon qui a été du coup artiste puis jury de ce concours de design de verre. On a aussi donc un architecte, donc Ron Arad à l'époque. Et en fait, ça permet de venir aussi montrer toutes les possibilités et toutes les différentes formes d'art et de venir les célébrer. Plus récemment, on s'est associé du coup à Thomas Heatherwick, qui est un architecte et un designer britannique, et avec qui on s'est associé pour en fait faire la nouvelle et designer la nouvelle distillerie de la marque, donc à Laverstock, qui est dans la campagne britannique, dans un but aussi de devenir l'une des distilleries les plus éco-responsables du coup sur Terre. Et en fait, il a designé une serre qui est magnifique autour d'une ancienne usine pour en faire aujourd'hui un lieu qui du coup fait venir beaucoup de touristes et qui permet en fait de rentrer vraiment dans l'univers de la marque.
Caroline Boudéenne, cofondatrice de C Contemporaine.
C Contemporaine, j'ai cofondé cette agence avec Inès Leonarduzzi. C'est la première agence conseil et de production qui traduit en gros les enjeux RSE des organisations en projet culturel. Donc on travaille entre Paris, Shanghai, puisque j'y ai aussi vécu et construit un réseau et un bel écosystème, mais aussi New York. C'est aussi tout un réseau international d'artistes contemporains qui sont spécialistes à la fois de la culture et de la responsabilité sociale et environnementale. Voilà, et on travaille avec eux pour proposer des projets impactants et durables.
Quand vous dites c'est un réseau avec des artistes spécialistes de la RSE, ça signifie quoi exactement justement? Est-ce que ça signifie que vous avez un choix d'artistes précis, que vous allez plutôt approcher des artistes qui s'intéressent justement à ces questions-là, qui sont plus dans un univers de réflexion sur justement par exemple l'environnement?
Alors nous évidemment avec Inès on connaît beaucoup d'artistes, hein. On travaille dans l'art contemporain depuis de nombreuses années. Pour ces contemporaines, évidemment, on va travailler avec des artistes qui adressent les grands sujets sociétaux. Nous, on n'a pas d'artistes prédéfinis. On travaille avec beaucoup d'artistes dans plein d'univers différents. Donc voilà, donc nous, on travaille plutôt avec des artistes qui ont bien sûr un rapport fort à l'environnement, à l'écologie. Oui.
Quelle a été la motivation finalement de créer cette agence?
Alors en fait, on s'adresse aux entreprises qui peuvent être aussi évidemment des marques, mais c'est alors il y a des entreprises, des marques, des organismes publics, des acteurs culturels. Enfin, ces entreprises, en règle générale, ont des enjeux RSE qui sont d'ordre. Donc voilà, donc les enjeux sociétaux, comme ça peut être le climat, l'inégalité homme-femme, la diversité. Et en règle générale, ces entreprises ont du mal à en parler. Donc nous, l'idée chez ces contemporaines, c'est de les transformer en contenu artistique et culturel. Voilà, ça c'est la grande idée et c'est le pourquoi on a décidé de fonder ces contemporaines sur ce principe. C'est qu'on avait envie aussi de travailler sur du temps long, de rentrer un peu plus précisément dans la RSE des entreprises à travers leur responsabilité culturelle. Donc le but étant d'infuser de l'art contemporain, enfin de l'image contemporaine dans les entreprises et à travers les enjeux sociétaux de celles-ci.
Est-ce que justement la marque réfléchit à coller aux valeurs, alors aux siennes évidemment, les valeurs de la marque, mais aussi à certaines valeurs sociétales qui sont fortes aujourd'hui, comme celle de l'écologie, de l'inclusion, etc. Est-ce que par le biais de l'art, il y a aussi cette volonté d'être en résonance en fait à la fois avec les valeurs de la marque, mais aussi de plus largement avec les valeurs sociétales qui animent les débats aujourd'hui?
Alors ça, on l'a fait de manière un peu parallèle avec la marque Bombay. Tout à l'heure, on parlait des botanicals et c'est assez intéressant parce que les botanicals, c'est toutes les herbes aromatiques qui rentrent dans la conception de Bombay et ça a une importance majeure puisqu'en fait, l'équilibre de ces dernières, donc c'est 10 botanicals, finalement, un tel équilibre que ça permet une grosse versatilité. Et à l'époque, tous les barman qui travaillent ce produit, donc dans les années 80 quand il arrive, le décrivent comme un canvas pour la créativité, parce qu'en fait, il n'y a pas de prédominance de l'une ou l'autre des herbes aromatiques, et ça permet une multitude de cocktails et de vraiment s'éclater avec ce gin. Toutes ces botanicals sont maintenant certifiées à 100% responsables par EcoCert. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire que depuis quelques mois et j'en suis très fière. Mais en tout cas, on se sert pas de l'art pour véhiculer et pour en tout cas parler de tout le mouvement éco-responsable et de toutes nos valeurs éco-responsables. Ça, c'est un travail qui s'est fait, je pense, à peu près en même temps, en fait, que cet ancrage dans le monde créatif. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on en parle plus parce que, en effet, c'est quelque chose qui résonne plus auprès de nos consommateurs, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 30 ans quand la marque s'est lancée.
Quand on vient nous voir, on nous dit moi, j'ai envie de faire une collab avec un artiste contemporain. Je sais pas lequel, je sais pas où, je sais pas comment. Nous, notre rôle, c'est aussi de leur dire ok, c'est génial, mais au-delà de vouloir le faire parce que c'est cool ou que ça permet de faire un buzz à un moment, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous pensez de l'art contemporain? Quel art contemporain? Qu'est-ce que ça résonne? Qu'est-ce que vous en attendez aussi?
Quand tu parlais des agences là, qui sont ces intermédiaires qui permettent à des artistes de rencontrer des marques, est-ce que tu penses que c'est justement leur rôle est important et il y a depuis quelques années une sorte d'éclosion comme ça de plusieurs agences artistiques qui justement vont sur le terrain, soit des collaborations avec des marques, soit de l'intégration de l'art dans l'espace public. Donc ce sont aussi des collaborations, peut-être plus avec parfois des institutions publiques d'ailleurs aussi. Est-ce que pour toi ça, c'est important ça justement, en tant qu'artiste, d'avoir ces intermédiaires?
Ouais, je pense que c'est même essentiel. Moi, ça m'est arrivé de pas forcément de faire des collaborations avec des marques, mais de faire des interventions dans l'espace public, qui était un projet où, par exemple, j'avais répondu à un appel à projet. Même d'assurer toute la production artistique durant la réalisation de l'œuvre, je trouve que c'est un travail considérable qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et pour le coup, je trouve ça plus sain que l'artiste se concentre juste sur son travail esthétique et artistique, etc.
Et est-ce que cette agence, justement, artistique, qui donc agit dans l'intérêt de l'artiste, justement, est là aussi comme un garde-fou sur des questions juridiques, financières, pour justement négocier un contrat de manière correcte?
Alors ça, c'est une bonne question, parce que je me souviens, une fois, j'avais fait une mission pour une marque que je ne citerai pas. Et en fait, c'était un tout petit peu abusif. Et un jour, en fait, je me suis posé la question, est-ce que cette agence travaille pour moi ou est-ce qu'elle travaille pour la marque? Et en fait, je me suis rendu compte que son client principal, c'était la marque. Donc en fait, cette agence travaillait pour la marque et non pour moi. Et ne négociez pas mes intérêts, que ce soit au niveau du salaire, du fee ou des conditions de travail, du bien-être psychologique. et donc c'est vrai que maintenant c'est quelque chose que je regarde un petit peu plus.
Ensuite, évidemment, la marque va utiliser cette image comme un visuel de communication aussi, pour mettre en valeur l'image de la marque.
Ouais.
Et là, alors c'est pareil, sur les photos qui vont circuler, sur les réseaux sociaux, dans les papiers de communication, à travers toutes les campagnes de communication auprès du public. Est-ce que là, tu négocies quelque chose ou même la mention de ton nom à chaque fois ou quelque chose de financier d'ailleurs aussi?
Pas toujours, mais oui, ça arrive qu'il y ait des négociations dans le contrat par exemple, si la marque me demande de faire des posts ou de communiquer de mon côté, oui, forcément, là, généralement, dans ce cas, il y aura un échange de rémunération. C'est pas forcément quelque chose que je fais, parce que j'aime bien parler des collaborations quand j'ai envie d'en parler. Et ça, c'est vrai que c'est un travail plus d'influenceur, d'influenceuse, et en tout cas, pour moi, je trouve que ça n'a pas non plus sa place sur mes réseaux sociaux ou mon site. En revanche, j'ai besoin que mon nom soit précisé puisque c'est mon travail et il doit être signé.
C'est aussi pour toi de la communication de toute façon, c'est donnant-donnant, puisque effectivement, le fait que Roland Garros ou Bombay Saphir poste à un moment donné cette image, ça te fait aussi de la publicité en tant que. Enfin, ça met en valeur ton travail en tout cas.
Ouais, ça me permet aussi de rentrer, de chuchoter mon art à des personnes que j'aurais pas forcément pu atteindre de manière dans le monde de l'art ou dans mon cosmos personnel. Je trouve que c'est assez intéressant pour les artistes de faire des collaborations si leur travail s'y prête. Je pense que parfois il y a peut-être un peu d'abus sur les marques qui ont vraiment besoin de se valoriser, d'avoir besoin plus créatives, donc on va faire appel aux artistes. Après, tant mieux, parce que je pense que ça peut être un vrai bon deal pour les artistes qui vont avoir quelques missions qui vont être financièrement très intéressantes et qui vont pouvoir financer des projets perso, d'expo ou qui nécessitent des matériaux très coûteux. Donc, je pense que c'est une bonne balance. Mais...
C'est-à-dire que, est-ce que toi, justement, tu continues ta création personnelle à côté de ces collaborations?
J'ai l'impression que c'est très compliqué d'avoir un juste milieu dans la vie en règle générale. Là, c'est vrai que je suis à un moment de ma carrière où je suis extrêmement sollicitée. Donc là, oui, j'ai des projets qui sont des collaborations avec donc des villes, mais pour moi c'est vraiment très important.
C'est de la commande publique, ça, du coup?
La commande publique, ouais. Là, par exemple, je vais faire un mur pour l'ambassade des États-Unis, donc à Saint-Ouen, où je réside et où j'ai mon studio. Ça va être un mur de 26 mètres de haut. Ça va être extraordinaire. Vraiment très important pour moi de pouvoir m'imposer aussi dans l'espace public et d'être visible. En fait, dès qu'il y a commande, c'est comme une collaboration, mais après, ça va être, je pense, différent d'une collaboration avec une marque de manière littérale.
Oui, c'est-à-dire que je comprends, c'est-à-dire qu'il y a aussi un écueil peut-être pour un artiste à éviter, c'est de devenir, entre guillemets, le produit de la marque.
Ouais.
Ça, évidemment, dans ces collaborations, je pense que tu fais attention à ça, c'est-à-dire que tu fais attention à garder finalement l'ADN quand même de ton art.
Totalement.
Sans qu'il soit complètement, entre guillemets, perverti par les desiderata des marques, en fait.
C'est ça, mais généralement, je fais des projets qui m'amusent ou qui me permettent aussi d'accéder à toucher une pratique qui est étrangère à la mienne. Donc, je ne sais pas, par exemple, le textile ou plein d'autres choses. Donc, ça me permet d'avoir accès à un monde que je ne connais pas forcément. Au final, je vais avoir ma pratique sur toile, où là, c'est vraiment la toile blanche totale et c'est extraordinaire. Et puis mes collaborations donc avec les marques ou avec les villes ou sur des projets voilà qui sont collaboratifs en collectif.
Dans notre envie chez Ces Contemporaines, dans notre souhait et ce qu'on essaie de faire, c'est d'être vraiment garante de la consistance d'un contenu. Réfléchir, écouter ce que l'entreprise nous raconte sur ses enjeux sociétaux. Ça, c'est votre enjeu à vous. Maintenant, comment on va le traduire au mieux auprès du public, mais aussi auprès de vos collaborateurs, en le faisant fusionner avec un artiste de notre époque et comment ça peut nous emmener comme ça sur du long terme dans votre entreprise, mais aussi voilà votre exposition publique.
Ça permet de construire des projets qui sont pas juste des projets marketing finalement.
Oui, c'est ça. Nous, on fait pas de marketing. C'est pas notre enjeu. Il n'est pas marketing du tout. C'est vraiment construire un message, construire, comme je disais, du contenu de un contenu qui ait du sens, tout simplement. Et justement, éviter l'écueil, comme vous le dites très bien, juste de la valeur ajoutée qui du coup serait effectivement strictement marketing. Non, non, là, ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'on parle quand même de définir ou redéfinir une identité finalement de marque ou d'entreprise à travers la culture contemporaine. Et on sent qu'il y a une vraie demande dans ces sujets.
Alors, de manière plus générale, du coup, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, justement, les entreprises veulent faire plus appel au culturel, à l'artistique pour faire passer leur message? Est-ce que aussi c'est dans cette optique-là que vous vous êtes dit que Ces Contemporaines pouvaient jouer un rôle d'expertise parce que les entreprises aujourd'hui peut-être sont plus demandeuses qu'il y a quelques années? Ou pas?
Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Non, mais complètement, parce que bon, ça n'aura, voilà, tout le monde aura noté qu'il y a beaucoup plus de plus en plus de collaborations entre les artistes, les marques et les entreprises. Mais moi, ce que j'avais aussi remarqué, c'était, bon, en général, ces collaborations sont très sur le court terme. Ça s'adresse surtout à des lancements de produits nous, ce qu'on avait envie aussi, en fondant Ces Contemporaines, c'est de s'adresser aussi, d'adresser surtout du temps long. L'idée étant de vraiment de faire infuser la culture contemporaine, les artistes contemporains sur du long terme dans les entreprises. Rendre l'art accessible au plus grand nombre. Donc évidemment, on travaille beaucoup avec les institutions publiques et mettre de l'art dans la rue ou même dans les espaces ruraux, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup beaucoup à cœur.
Si l'essor du jean a eu lieu un peu avant dans certains pays comme notamment en Espagne ou au UK, en France, ça fait une petite dizaine d'années maintenant que ça revient, et très récemment, donc on voit l'essor aussi du gin and tonic. Et aujourd'hui, c'est important aussi, comme je disais tout à l'heure, de montrer comment est-ce qu'on consomme ces produits. Et c'est pour ça que notamment l'expérience et les événements à forte valeur artistique sont hyper importants. Et c'est notamment ce qu'on a fait du coup l'année dernière avec le Creative Wall, qui avait pour but rendre accessible l'art à tous, puisqu'en fait le credo et la croyance de la marque Bombay, c'est que donc si elle est créative, elle veut rendre vraiment accessible l'art à tous, et elle veut vraiment, parce que la croyance c'est aussi que l'art se trouve partout autour de nous et qu'on n'a pas besoin du coup de payer un ticket de musée pour avoir accès à l'art. Et donc c'est un peu tout ce qu'a voulu véhiculer la marque l'année dernière quand on a fait ce fameux Creative Wall, qui du coup avait donc deux axes. Un axe digital où l'objectif c'était de venir créer une toile collaborative, la toile collaborative la plus grande du monde. Bon, je sais pas si on y a réussi. En tout cas, on a réussi à faire une toile 1 kilomètre de long avec des consommateurs. Et pour ça, on s'est associé à 3 artistes qui nous ont en fait créé des petites formes et qui ont commencé en fait à peindre sur cette toile. Et ensuite, on a fait un appel à tous les consommateurs pour venir du coup utiliser ces formes, se les approprier et finalement faire une toile d'un kilomètre de long qui du coup avait pour but à la fin de créer une édition limitée et une étiquette. Et ensuite, donc, on a fait un peu le reveal de cette bouteille et de ce travail et aussi de la collaboration avec les artistes dans un événement physique. Donc évidemment là c'est plus restreint parce que l'événement était à Paris, donc forcément tous les consommateurs peuvent pas venir, mais du coup c'était l'occasion aussi de montrer le travail des artistes avec qui on travaille. Donc c'était dans une galerie et l'objectif c'était vraiment d'exposer aussi le travail d'artistes qu'on soutient et auxquels on croit.
Et alors, est-ce que c'est aujourd'hui chiffrable, ou est-ce que vous avez une notion tangible qui pourrait justement estimer les retombées en termes d'image, de réputation de la marque à travers ces collaborations artistiques, ou est-ce que c'est trop tôt?
C'est assez tôt pour le dire, puisqu'en fait ce travail en France, même si la marque est connue internationalement depuis longtemps, encore une fois l'essor du jean est assez nouveau en France, et du coup ce travail nous qu'on a fait en En France, il est quand même relativement nouveau. Et tout ce travail, en fait, du coup, d'image et d'ancrage d'un ADN, il met du temps, en tout cas, à se faire. Donc, sur la notoriété, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'études particulières marketing qui nous permettent de dire si oui ou non l'art permet de faire plus vendre. mais en tout cas, je dirais qu'il y a, de la part des consommateurs, une recherche d'authenticité et que c'est potentiellement un moyen qui nous permet d'être plus proche de ces consommateurs.
Alors Caroline Boudène, il faut préciser que vous êtes spécialiste du marché de l'art en Chine. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui est sorti très récemment, qui s'appelle « Le boom de l'art contemporain en Chine », publié chez l'Aube Édition. Comment vous en êtes venue à vous intéresser à ce marché de l'art en Chine ?
Première chose, en fait, si je me suis intéressée à l'art contemporain en Chine, c'est tout bêtement parce que je suis partie vivre à Shanghai pendant 6 ans. Là-bas, j'étais journaliste correspondante pour plusieurs partie spécialisée en art contemporain, mais aussi en culture et en art de vivre. Tu immergeais dans ce nouveau marché. Je disais nouveau parce que je le découvrais moi, et je l'ai découvert aussi notamment parce que il était absolument partout quand j'y ai vécu. C'était tellement flagrant de voir des œuvres des plus grands artistes au milieu des centres commerciaux, des parcs publics, de la rue, des restaurants. Enfin, c'était assez frappant. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, dans la façon de diffuser l'art, de la façon de l'appréhender, la façon aussi dont l'art avait d'impacter la vie, clairement, puisque j'étais à Shanghai entre fin 2015 et fin 2021. C'est vraiment à ce moment-là que l'art contemporain a vraiment explosé là-bas, dans le sens où on en voyait partout, et ça redéfinissait également les relations traditionnelles entre un galeriste, l'artiste, le collectionneur également, les réseaux sociaux, la Chine est ultra digitalisée. Enfin, c'était assez fou de voir, en fait, je pense avec quelques années d'avance, ce qui est en train de se produire du coup actuellement en Europe ou même aux États-Unis. Mais et voilà, et de m'inspirer aussi de tout ça pour ce que je fais aujourd'hui avec ces contemporaines, bien sûr.
Podcast qui s'appelle Elles font le marché. On a à cœur évidemment de donner la parole à des jeunes entrepreneuses, donc vous en faites partie. Et justement, donc comme vous êtes depuis longtemps, voilà, dans le milieu de l'art contemporain, dans ce marché de l'art, est-ce que vous voyez aussi qu'il y a plus de femmes qui se lancent autour de vous, par exemple, dans votre génération?
Ouais, exactement. De plus en plus de femmes et de jeunes femmes, et je trouve ça très réjouissant. Et c'est en général des nouvelles formes de structures et aussi beaucoup d'idées innovantes. Et ça me réjouit beaucoup. Et je le vois beaucoup autour de moi. On est engagé donc sur plusieurs sujets évidemment chez ces contemporaines, mais l'émancipation des femmes en règle générale est un de nos gros, de nos sujets qui nous tient vraiment à cœur.
Souvent, on ne prend pas forcément au sérieux, et c'est peut-être dû à mon âge, à être aussi une femme blonde. non, je fais une blague, mais souvent j'ai l'impression qu'on ne prend pas forcément beaucoup au sérieux. Après, les personnes avec qui je collabore sont extrêmement bienveillantes. En fait, j'ai eu des mauvaises expériences comme tout le monde. Mais elles ont été assez rares.
Et est-ce que tu suis assidûment tout ce qui se passe justement sur les femmes artistes en ce moment, sur leur remise en valeur, sur la place des femmes dans les expositions, etc.?
Moi, je suis une grande féministe, donc je me nourris que de cette force-là, qu'elle soit politique dans mes lectures, dans les films, dans la musique. Autour de moi, je suis entourée d'artistes femmes extraordinaires. Je collabore avec beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc je suis à 100 000% dans la sororité, donc bien évidemment que je me nourris de tous ces merveilleux récits, et je trouve qu'il se passe des choses assez formidables en ce moment.
29 ans, Clémentine, peux-tu nous dire un peu depuis combien de temps tu es dans cette société? Comment tu y es rentrée?
Donc je suis rentrée moi quand j'étais en stage, donc ce qu'on appelle un bébé Bacardi, puisque du coup ça fait 5 ans et demi que je suis dans la boîte. Et je suis rentrée donc en marketing également. J'ai pas eu de frein spécialement à l'embauche. C'était assez facile de trouver un stage, et derrière en fait ça s'est enchaîné sur un CDD puis un CDI, donc ça s'est fait assez naturellement. Mais ce qui m'a beaucoup étonnée, mais positivement étonnée quand je suis arrivée, c'est que j'étais sur du coup une catégorie qui était différente, j'étais sur les whisky. Un peu ce monde poussiéreux, fait d'hommes et de canapés capitonnés avec des cigares, si on tire le trait.
C'est un peu l'image qu'on peut avoir en effet.
Exactement, et au final je suis arrivée dans un monde où en fait on essaie de, enfin dans cette boîte ou sur des marques, on essaie de dépoussiérer tout ça. Et ce qui m'a marqué, c'est que en fait la place de la femme, en tout cas sur ces marques sur lesquelles je travaillais, était hyper forte. Donc moi j'étais une femme, je travaillais sur les whisky, notre ambassadrice c'était une femme et la master distiller c'était aussi une femme. Et donc la personne qui fait nos whisky c'était une femme, elle s'appelle Stéphanie McLeod, elle est très reconnue dans le milieu. Et il s'avère que sur du coup le gin c'est aussi une femme qui s'appelle du coup Anne Brock, qui du coup travaille donc sur l'élaboration de chacun de nos gins. Et ça je trouve ça génial parce que ça permet de casser aussi les codes, ça montre que les femmes sont aussi associées à l'univers des spiritueux. Et ça m'a vraiment positivement étonnée. Et aujourd'hui, je pense que ce monde qui était très masculin, il est en train de changer. On a de plus en plus de femmes aussi chez Bacardi qui sont commerciales, ce qui à un moment n'était pas du tout le cas. Et donc l'entreprise, elle a aussi pour vocation de pousser ces femmes aussi, donc non seulement à, enfin, une parité dans les effectifs, mais également elle a un gros travail qui est fait sur pousser ces femmes à des postes du coup beaucoup plus haut dans la hiérarchie du coup de l'entreprise. Et ça c'est tout le travail qui a été entrepris depuis je dirais 10-20 ans. On avait une DG qui était très très enfin pionnière de ces questions et de cette inclusion des femmes, qui a du coup créé Women in Leadership, qui du coup a donné accès après à un programme d'inclusion qui englobait d'autres sujets, notamment le handicap, la géographie, les générations. Et aujourd'hui on a un programme qui s'appelle Belonging, qui est international, puisqu'en fait il y a eu vraiment une initiation de la France donc chez Bacardi, qui est maintenant du coup un programme global qui s'appelle donc Belonging, et qui englobe différents piliers, le genre, mais également l'inclusion des personnes LGBT, qui est un sujet qui est vraiment particulier dans les entreprises en tout cas, et que j'ai eu la chance du coup de l'idée avec une équipe de 5-6 personnes.
Les collectionneuses également, hein. Ça c'est aussi de nos gros sujets. Comment dire, de guider quand on le peut ou de donner envie, en tout cas aux femmes, de s'intéresser à l'acquisition d'œuvres d'art, hein, pour qu'elles puissent se constituer de se faire une collection, mais non plus un patrimoine, mais un matrimoine, ce qui est très important dans les valeurs de transmission, et que ça rejoint d'autres sujets également sur l'émancipation des femmes, la façon de gérer l'argent, de la dépenser, de l'épargner, etc. Débuter une collection d'art, c'est un des plus beaux, je trouve, des plus belles façons de commencer à épargner. Les femmes collectionneuses sont beaucoup, beaucoup moins importantes que les hommes collectionneurs. Les chiffres sont frappants, hein. Je crois qu'on parle quand même de 70% d'hommes contre 30% de femmes, et encore, je crois que c'est pire que ça. Donc, on dit que c'est quand même, il y a un enjeu quand même ici. Clairement, une affaire d'hommes. Et on remarque aussi que sur le sujet en termes d'écrit, il n'y a pas grand-chose. Quand on tape de la collectionneuse femme dans l'histoire de l'art, je crois qu'il n'y a même rien. Et c'est ou un ou deux ouvrages, mais qui datent.
Après, pour revenir sur le côté à l'aspect physique, j'ai l'impression parfois qu'on utilise un petit peu... c'est un peu pratique d'avoir une jeune artiste à montrer sur image. Donc en fait, j'ai vraiment hâte de savoir ce que l'avenir me réserve. Là, j'ai vraiment hâte de savoir ce que va me réserver la suite. Est-ce qu'on va autant montrer mon image? Parce que je sais qu'on collabore pour ce que je fais, mais on aime bien aussi tout ce qui est à côté. Et je pense que les réseaux sociaux aussi contribuent vachement à cet aspect de la vie privée ou de la représentation physique. On voit de plus en plus d'artistes qui posent devant leurs œuvres, et même moi je vois sur Instagram ce qui cartonne, c'est quand je suis devant mon œuvre. Et donc il y a le côté logique de cette personne-là a fait cette peinture, mais on a besoin de voir les gens tout le temps, et j'espère qu'on me montrera autant quand j'aurai 60 ans.
Alors, je précise qu'on est entouré de bouteilles.
Oui.
Et peut-être qu'on va goûter quelque chose après l'interview.
Vous venez d'écouter le 18e épisode d'Elfons le marché en partenariat avec YAM, le club et Art District Radio. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, iTunes, Aosha ou Google Podcast pour réécouter ce podcast quand vous le souhaitez.